Je ne me mêlerai plus de politique, mais les politiques vont continuer probablement à se mêler de Johnny. Merci Frédéric Saïs. Vous aviez une mine étonnée, Emmanuel Laurentin, lorsque j'ai dit qu'il y aurait peut-être de l'hommage national dans l'air. En tout cas, Nicolas Sarkozy, lui, c'était une indiscrétion du canard enchaîné lorsque Johnny avait été hospitalisé, avait envisagé cet hommage national. Vous faites ce matin votre coming out, Emmanuel Laurentin, parce que vous n'êtes pas seulement le producteur de La Fabrique de l'Histoire, vous êtes aussi un amoureux de Johnny, un Johnnyologue. Est-ce que vous pourriez
sûrement pas
nous expliquer, si, ne soyez pas modeste, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Emmanuel, ce qu'il y a à aimer en Johnny, ou en tout cas ce qu'il y a d'important chez lui pour ceux qui considère que ça n'est pas vraiment essentiel de passer autant de temps sur lui.
Alors c'est assez difficile de vous dire ça parce qu'évidemment chacun a une relation particulière avec ce type de personnage et l'amour qu'on peut porter à ce personnage-là se tisse avec notre propre vie. Moi j'ai grandi en province, j'ai grandi dans le Poitou, dans un endroit où on écoutait très peu de musique rock et lorsque je discutais avec des réalisateurs de France Culture et que je commençais à travailler sur ces questions-là ici même, eux qui avaient grandi par exemple comme Mehdi Eladj à la rue Mouffetard, ils connaissaient Chet Baker à l'époque où moi, je ne connaissais aucun de ces artistes-là. D'une certaine façon, ce qui est intéressant dans Johnny Hallyday, à mon avis, c'est la VF. C'est-à-dire que c'est une France avant la VO, avant les sous-titrages et avant que les grands films ne soient plus sous-titrés et soit diffusé dans les cinémas français en version originale. C'est-à-dire qu'il est là comme celui qui va permettre le passage d'une culture anglo-saxonne à la culture française par la traduction, avec ses traducteurs en particulier, ses adaptateurs, avec Georges Habert, mais aussi avec Philippe Labro et bien d'autres dans les années 60 et dans les années 70. Il est celui qui est l'incarnation, pourrait-on dire, de l'ambiguïté française par rapport aux États-Unis en particulier.
Et d'ailleurs, il a débuté parce que Frédéric Saïs parlait dans son billet, citait des responsables politiques qui expliquaient que c'était important d'avoir quelqu'un qui parlait autant à l'Aveyron qu'au Cantal. Il a commencé à La Roche-Migène dans un cabaret à l'Escale à Migène, preuve donc de son ancrage, du caractère non parisien
et populaire
du phénomène.
Parce que La Roche-Migène était à l'époque un très grand endroit où se réunissaient les cheminots, en l'occurrence, qui travaillaient sur la ligne qui descendait vers le sud de la France. Et donc, à La Roche-Migène, c'était un endroit extrêmement populaire. Il faut se souvenir quand même de ce qu'était la France des années 60 quand des gens comme Eddie Mitchell ou comme Johnny Hallyday arrivent sur la scène, au Golfe de Roux ou ailleurs. C'est une France, par exemple, très urbanisée. C'est une France qui vient juste de connaître l'arrivée des pieds noirs venant du Maroc et de Tunisie.
Les pieds noirs, je l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Laurentin, ont joué un rôle important autour de Johnny. Expliquez-nous pourquoi.
Parce qu'en fait, les premiers adaptateurs de cette musique binaire à la France sont ceux qui, dès les années 40, à la fin des années 40, au Maroc et en Tunisie, écoutent ce type de musique. Il faut se souvenir que l'Afrique du Nord a été libérée plus tôt que le territoire métropolitain. Et donc, ils ont dans l'oreille cette fascination pour les musiques américaines qui va faire qu'au bout du compte, la plupart d'entre eux vont entourer ce jeune chef de bande, parce qu'il faut se rappeler que Johnny Hallyday était le chef de la bande de la Trinité qui se bagarrait tous les jours avec la bande du Sacré-Cœur à Paris à la fin des années 50 et au début des années 60.
Tout cela va contribuer à faire de Johnny un mythe que vous avez étudié, Corinne François Denève. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature comparée et vous avez consacré un livre à Johnny. Johnny a 20 ans, l'idole des jeunes, en quelque sorte la mythologie de ce chanteur. Qu'en avez-vous retenu, Corinne François Denève?
Moi, je pense que je vais abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ce qui m'avait surtout frappé, c'est le côté très mythe français, très mythe national de Johnny. Bon, notre président vient de le rappeler, en effet. Et je pense en fait que tous les Français peuvent s'identifier à lui parce qu'il a aussi marqué un certain nombre de décennies importantes pour la France. Johnny au service militaire, Johnny, alors peu politique, mais quand même accompagnant les changements politiques, et puis surtout Johnny dans tous les événements personnels. Je pense que pour le coup, il y a un certain nombre de Français qui se sentent orphelins ce matin parce que quand bien même ce sont des intellectuels, ou combien même ils n'ont pas été élevés avec Johnny, c'est quand même, en effet, toujours quelque chose de Johnny quelque part.
Mais je vais vous poser une question compliquée, Corinne François de Neuf. Pourquoi Johnny est probablement moins Eddie Mitchell, à qui on souhaite une longue vie jusqu'à 120 ans, pourquoi est-ce Johnny qui marque et pas un autre chanteur?
Alors ça serait bien difficile de répondre à cette question. Bon, il y a déjà la longévité quand même exceptionnelle de Johnny. Alors vous allez me dire que Charles Aznavour a la même. Mais peut-être que Johnny a su s'adapter au changement de temps, peut-être plus que Charles Aznavour. C'est quand même quelqu'un, Johnny, qui a aussi été choisir des paroliers souvent jeunes, souvent dans des générations qui n'étaient pas la sienne, et qui pouvaient peut-être parler à plusieurs générations. Quand on allait au concert de Johnny, il y avait le grand-père, le père et le fils qui en fait avaient une même idolâtrie pour Johnny. Donc peut-être ce côté plastique fait que Johnny a pu parler à plus de personnes que d'autres.
Emmanuel Laurentin.
Et puis Johnny Hallyday, il faut s'en souvenir, et vous le citiez en tout début de votre émission, Guillaume Erner, c'est celui qui est repéré par un sociologue comme Edgar Morin au tout début de sa carrière.
Ah oui, alors donc il faut rappeler en quoi les carrières de Edgar Morin, qui lui aussi on souhaite longue vie jusqu'à 120 ans, a une carrière intimement liée à celle de Johnny.
Bah, c'est-à-dire en travaillant sur la question des stars, il s'intéresse à cette culture jeune et il décrit ce qu'est la naissance d'une culture jeune en France au tout début des années 60. La séparation des parents, cette séparation des parents qui va passer par le code vestimentaire, qui va passer par les musiques que l'on écoute, par la pratique du transistor, par exemple l'usage du transistor qui permet d'écouter séparément la radio de ses propres parents, et qui d'ailleurs Edgar Morin va tenter de l'appliquer assez vite dans une grande enquête sociologique qu'il va mener à Plozévet avec tout un tas de chercheurs en sciences
humaines,
une commune de Bretonne du pays Bigoudin. Et bien dans cette grande enquête psychologique sociologique qu'il fait, il emporte avec lui des disques de Johnny Hallyday de toute la période yéyé pour pouvoir créer un club de jeunes à Plozévet et séparer d'une certaine façon les jeunes qui ne sont pas encore dans ce village de la génération la plus ancienne, montrer qu'il y a une rupture entre les générations dans ce début des années 60.
Et c'est Edgar Morin qui, en juillet 1963, dans un article du Monde, suite au concert de Johnny Hallyday, va forger le mot de yéyé. C'est lui également qui va décrire cette culture jeune naissante. Il dit par exemple que Johnny Hallyday donne le droit à la coquetterie aux hommes, puisque ça c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas avant. Et puis il va faire une musique qui est extrêmement clivante, et là notre camarade Mathieu Conquet nous a rejoint. C'est quelque chose d'extrêmement important, parce que évidemment aujourd'hui cela paraît un peu étrange, mais au départ Mathieu, cette musique provoquait de nombreuses polémiques. Il y a un programmateur qui sur l'antenne d'Europe 1 avait cassé ce disque en expliquant qu'il ne passerait plus jamais du Johnny Hallyday.
C'est Lucien Maurice.
Oui,
vous racontez l'anecdote de Lucien Maurice qui a dit ce chanteur ne fera jamais aucune carrière. Bon, c'est l'une des seules.
C'est
grosses...
une petite anicroche, mais, voilà. Mais on a du mal à la comprendre aujourd'hui, puisque lorsqu'on écoute la musique de Johnny Hallyday, on y est évidemment habitué. Qu'est-ce qu'il apportait à l'époque de si nouveau pour les radios et pour les oreilles françaises?
Je pense qu'il incarnait, Emmanuel Laurentin l'a très bien dit, un rêve d'Amérique dont avait besoin sans doute une jeunesse française dans l'après-guerre, avec une forme d'idéal, de paysage ouvert, lumineux. C'est quelqu'un qui est fort sur scène, qui brille, qui déborde d'énergie. Donc tout cela fait envie et n'importe quel jeune peut s'identifier. Je crois que ce qui a fait la particularité de Johnny Hallyday, peut-être par rapport à d'autres chanteurs sur le même registre, c'est une forme. On a souvent parlé des problèmes d'élocution de Johnny ou de ses vides, de ses trous parfois dans les interviews, de sa capacité à sortir des tautologies étonnantes, d'inventer des mots, des néologismes comme désaggravé. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du vide qui justement a permis, c'est ce qui est, je crois, propre à beaucoup de stars, quand un père est manquant ou peut-être quand quelque chose apparaît comme manquant, c'est le public qui va remplir ça. Et je crois qu'il y a quelque chose de vide que Johnny laisse dans ses chansons, dans ce qu'il est, dans les interviews, qu'on entend assez bien. Je vous propose, puisqu'on vous parliez de transistor et de service militaire, je vous propose d'écouter en août 65 cet archive. Johnny Hallyday termine son service militaire et s'apprête à reprendre les concerts. À quelques jours de la quille, il va chanter à Colmar pour la fête de la bière et il fait le point sur sa carrière au micro de François Jouffa. C'était pour Europe numéro 1, comme on disait à l'époque.
Finalement, alors cette armée, ça n'a pas été trop difficile?
Je ne pense pas que j'ai perdu mon temps, absolument pas.
De temps en temps, j'avoue que ça m'a semblé long, mais je ne suis pas le seul. N'importe quel militaire, de temps en temps, a le cafard et trouve que le temps est long. Votre grand problème, c'était de ne pas passer pour un pistonnet ni pour un tir au flanc. Je ne pense pas avoir été un pistonnet du tout, d'ailleurs. Le ministère des Armées m'a été assez gentil de m'autoriser à chanter, mais il a toujours voulu que je chante dans une ambiance militaire. Alors, de reprendre votre travail, ça va être très difficile, n'est-ce pas ? Difficile, non, c'est surtout une question de trac. Aujourd'hui, c'est la première fois que je me produis sur scène depuis presque 16 mois et j'avoue que j'en mène pas large. Vous avez beaucoup changé, je me rappelle de vous sur la scène de l'Alhambra, en pantalon très serré, en chemise à jabot et les cheveux très longs. Et ce n'est plus du tout ça, Johnny. Vous vouliez arriver, vous vouliez tirer quelque chose de la vie, et maintenant c'est fait, mais vous ne regrettez pas cette époque ? Non, parce que maintenant j'ai compris une chose, c'est que on peut être heureux ayant réussi ou sans avoir réussi. Mais il y a une chose, c'est que quand on chante, je suis sûr que je serais beaucoup plus malheureux si je devais arrêter de chanter que si je devais arrêter d'être vedette. Le choix d'être vedette, bon, c'est bien, mais ça va pas plus loin.
L'armée vous a assagi, dans le fond, parce que vous l'avouez vous-même.
Oh oui, ça je l'avoue, oui. Ouais. Ça m'a surtout posé. D'ailleurs, ça a posé mon caractère, ça m'a permis de me dominer dans beaucoup de choses. Maintenant, quand on me fait des réflexions, eh bien, je me mets plus en boule comme avant, je laisse passer. Je me suis assagi et je suis un peu moins bête qu'avant.
Emmanuel Laurentin reconverti en Johnny Hologue pour l'occasion, parce que c'est une date historique, il avoue qu'il aime Johnny.
Oui, et depuis longtemps, effectivement. Mais en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est qu'une des premières interviews que donne Johnny à la radio française, on lui pose la question des blousons noirs. Et on lui dit, qu'est-ce que vous pensez des blousons noirs ? Et il dit, je suis ni pour ni contre. Et je pense que ce que vient de dire à l'instant Mathieu Conquet, c'est un peu cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a permis, par une sorte de vide aussi de ce qu'il disait parfois, de remplir le blanc. On est dans un personnage qui laisse la possibilité à chacun de celui qui l'écoute de projeter quelque chose qui lui fait plaisir, de l'Amérique par exemple, du rapport de l'Europe à l'Amérique, de cette musique qui se veut en rupture, parce qu'au bout du compte, il adapte cette musique au point qu'au bout du compte, elle n'est plus du tout la musique révolutionnaire qu'elle est au départ. C'est-à-dire que la puissance de dynamite qu'a le rock'n'roll quand il arrive en France, elle disparaît cette puissance assez rapidement. On peut voir par exemple ce premier reportage à la radio française à l'ORTF au tout début des années 60.
Cher Ripper, bonsoir. Non, cette turbulence ne salue pas le bulletin d'information. Non, vous entendez en ce moment simplement le bruit de la foule qui était réunie vendredi soir au Palais des Sports pour saluer les héros modernes du rock'n'roll. Au micro, Roger de Mervellec qui va essayer de vous faire revivre cette soirée mémorable. Au cours de cette émission, vous allez pouvoir entendre, dans l'ordre de parution en scène, pour autant que je m'en souvienne, tout d'abord Les Chaussettes Noires, un nouvel ensemble, Little Tony, italien, il représentait là, oui, la péninsule italienne, comme son nom l'indique, ensuite Emil Ford, qui lui est anglais, Emil Ford, ils étaient neufs d'ailleurs, ensuite Frankie Jordan, puis Bobby Rydell, qui nous arrivait tout droit de Hollywood, et enfin la grande vedette franco-américaine, je veux dire française, non, je crois que sa mère est née au Batignolles et son père dans le Massachusetts Noir, bien entendu, Johnny Hallyday.
Alors ça, c'est une archive extraordinaire, parce que effectivement, ça fait partie de la légende du tout début de la carrière de Johnny Hallyday, que de faire croire qu'il est de fils d'un Américain pour pouvoir justifier justement ce passage qu'il fait à travers sa musique et ses chansons entre l'univers et le continent américain et le continent européen.
Corinne François Deneuve, on ne se souvient pas, et beaucoup ne peuvent pas s'en souvenir d'ailleurs, de la manière dont Johnny a été célébré au concert que Johnny devait faire à la Nation en 1963. 30 000 personnes attendues, il y en a 200 000, l'idole des jeunes. Et c'est à la fois le titre qu'il s'est auto-décerné, mais c'était une réalité sociale, n'est-ce pas ?
Alors, je ne m'en souviens pas non plus, hein, je vous rassure.
Non, mais vous avez écrit là-dessus, vous avez recomposé des traces.
J'ai recomposé des traces et de fait, j'ai rencontré des gens qui y étaient et pour qui, en fait, c'est un souvenir absolument considérable. Alors, Emmanuel Laurentin en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est aussi l'éruption de la jeunesse dans la sociologie française. Et à la limite, Johnny arrive à point nommé pour incarner cette jeunesse de façon, en effet, encore une fois, totalement fantasmée. On n'arrête pas de parler, finalement, d'une sorte de construction d'une vedette qui peut-être oublie l'homme l'homme et dans quoi on peut se projeter absolument. Et donc, en effet, Johnny va incarner cette jeunesse, peut-être un peu à son corps défendant, peut-être incarnant des identités tout à fait contradictoires, mais qu'il va assumer, en effet, tout au long de sa carrière.
Mais qui était rendu possible par cette métaphysique du vide dont parlait tout à l'heure Mathieu Conquet, comme ça n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, eh bien, on avait la possibilité, finalement, de le tirer à soi, Johnny.
Alors sans doute, mais il y avait sans doute aussi une sorte d'intelligence pratique de la part de Johnny pour se prêter à ce genre de jeu médiatique. Je pense que c'est quelqu'un qui a été sur scène très très jeune et qui a très vite compris comment il fallait se comporter et qui pour le coup a accompagné ce vedettariat de façon, à mon avis, tout à fait intelligente. Même si c'est une intelligence pratique, encore une fois.
Oui. Emmanuel Laurentin.
Et je voudrais juste confirmer ce qui vient d'être dit, à savoir que Georges Haber, son parolier, que j'avais rencontré pour un documentaire en 1997 sur le thème de l'arrivée du rock en France, me disait que lorsqu'il discutait avec Johnny dès le début de sa carrière, en 61-62, eh bien Johnny avait compris qu'il fallait faire avec un titre de 3 minutes, faire 8 ou 9 minutes sur scène, avec des ponts musicaux, avec la place qu'il laisse à ses musiciens pour monter sur le devant de la scène, et avec son jeu de scène qui est très critiqué à l'époque, même si Jean Co, dans le Figaro littéraire, dit que c'est le prophète bruyant des temps nouveaux.
Je rappelle que Jean Co était le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Donc voilà, c'était quand même une forme de consécration. Mathieu Conquet, sur la musique, Johnny a fait preuve également d'une grande plasticité.
Ah bah, complète à l'évidence, puisque là j'ai ici quelques disques.
Alors vous les avez par Johnny,
en vinyle. Alors, ouf, voilà, c'est très chic. Ils viennent de la discothèque de Radio France. Je vous recommande Quelque part un aigle, avec une couverture assez douteuse. Il y avait eu un projet Hamlet par Johnny Hallyday.
Celui-ci nous a échappé.
Qui était un disque extrêmement ambitieux, un petit peu enflé, et bon, qui n'a pas eu un grand succès, mais très ambitieux, avec Gabriel Yared, beaucoup de musiciens, qui est une sorte d'adaptation de Shakespeare pour Johnny.
Moi, et puis ce visage de Johnny dans la pénombre.
Voilà, ça c'est un disque que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vie, oui. Qui est paru en 1970, qui est un disque assez génial, où Johnny chante Jésus-Christ sur la première plage. Alors forcément, on pense à John Lennon, qui avait comparé la popularité des Beatles avec celle de Jésus-Christ. Mais c'est surtout cet album, c'est la rencontre avec, on a parlé des rapports de Johnny Hallyday avec l'intelligentsia, que ce soit Jean-Luc Godard ou Nathalie Baye. C'est surtout des écrivains comme François Sagan, Étienne Rodagil qui vont écrire pour lui, et Philippe Labro. Et voilà, cet album Vie, c'est sa rencontre avec Philippe Labro. Et moi, j'aime assez cette adaptation très osée à partir de la 7e symphonie de Beethoven. Voilà, Johnny Hallyday chante un hymne écolo, chante la terre souillé par les hommes, paroles de Philippe Labro.
Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans la rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez.
Cet enregistrement a véritablement existé, Emmanuel Laurentin.
Oui, et il faut reconnaître les paroles de Labro, mais il faut savoir que Mickey Jones était toujours avec lui comme musicien dans ces années-là. C'est l'époque de Ma Jolie Sarah, c'est l'époque de tout un tas d'autres grands succès qui sont écrits par Philippe Labro à ce moment-là.
Corinne François Denève, un dernier mot, vous êtes professeure de littérature comparée sur les textes de Johnny. Est-ce que la professeure que vous êtes a quelque chose à dire?
Alors j'entends les rires en studio et je vais essayer de défendre...
Ah, nous avons l'enterrement gay.
Les paroles de Johnny, en fait, ce sont rarement les siennes, de toute façon, ce sont souvent celles de ses paroliers. De fait, je suis désolée, il y a quand même quelques efflorescences poétiques. Alors évidemment, que je t'aime pour la répétition, c'est très bien pour apprendre cette figure de style, mais je vous assure qu'il y a dans d'autres chansons des choses à tirer, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, sur ce que ça dit aussi sur la France.
Ah mais ça, on en est absolument persuadé. On va terminer avec une trouvaille d'Emmanuel Laurentin, c'est normal, il fait de l'histoire, et il a retrouvé le « à queue ». On écoute le « à queue ».
Attends un peu, à queue je travaille. Quand je pourrais me la payer content, j'inviterai de la baisser à monter dedans. La capote est baissée sans trop nous presser.
Et pour celle qui est convaincue qu'il faut faire une thèse sur l'œuvre de Johnny Hallyday, c'est la première occurrence du « à queue » dans l'œuvre de Johnny
Hallyday. Voilà, parce que ça aussi, il faut en parler. C'est devenu un personnage public au travers de sa caricature, c'est devenu également un personnage public au travers des différents chansons qu'il a interprétées, que lui ont faites, Michel Berger, Miossec, dernièrement Zazie également. Bref, un choix de parolier qui était quand même un choix extrêmement pertinent à chaque fois. Il tapait juste dans la génération qui était la génération la plus écoutée par les jeunes.
La plupart des paroliers qu'on écrit pour lui expliquent que c'est assez difficile d'écrire pour Johnny, puisque vous écrivez pour quelqu'un qui peut chanter ce que personne d'autre ne pourrait chanter. On entendait... Non mais...
C'est vrai.
Sincèrement, ce qu'on vient d'entendre, par exemple, la chanson sur le poème sur la septième, n'importe qui se couvrirait de ridicule en chantant ça. Et Johnny ne le fait pas. Zazie a écrit pour lui Allumer le feu. Je pense que si vous n'êtes pas Johnny Hallyday, si vous n'enflammez
pas le
Stade
de France... Pourtant, il y a eu des reprises d'Allumer le feu.
Oui, mais si ça n'est pas lui, si vous êtes le créateur de la chanson et que vous n'êtes pas Johnny, ce sera très difficile.
Une reprise de Brigitte.
C'est une particularité. Oui, elles ont aussi repris Joey Starr, donc tout est possible.
Pourquoi ? Parce que vous considérez que Joey Starr... Maintenant que Johnny n'est plus là...
Mais ils ont partagé le même manager, je vous rappelle. Jean-Claude Camus.
Emmanuel Laurentin, un dernier mot.
Non, rien du tout. Je vais vous quitter pour rejoindre mon propre studio.
Oui, et parler de l'histoire sur d'autres thèmes.
Et parler de la mort, mais d'une autre façon.
Johnny, oui, puisque il faut quand même dire aussi que cette semaine où nous avons rendu hommage hier à Jean Dormesson, aujourd'hui à Johnny Hallyday, la fabrique de l'histoire est effectivement consacrée à la mort, ce qui est une sorte de hasard de circonstances.